Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hacker News Daily, le podcast de Brie. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Au programme aujourd'hui, une météo hors norme avec ce super El Niño qui ne cesse de grossir et un grand classique de la radioastronomie, ce fameux signal Waouh détecté en 1977.
Nous parlerons aussi de la disparition d'une figure majeure du traitement numérique du signal, d'une chirurgie très controversée et des promesses du sémaglutide dans la prévention de la démence.
Sans oublier les tests de tic à domicile contre la maladie de Lyme, un carnet de glycémie pensé pour le hors-ligne, et bien sûr, la technologie, les blogs et les débats qui animent la communauté.
On commence avec la météo, mais pas celle qui défile sur votre téléphone. Le super El Niño de 2026 continue de se renforcer, et vite, dans le Pacifique tropical. Les toutes dernières données océaniques et atmosphériques montrent une nouvelle accélération, et les prévisions à long terme ont encore revu le pic projeté à la hausse, ce qui pousse cet événement plus profondément dans le territoire historique pour la fin de l'année.
Ce qui alimente cette croissance, c'est d'abord des anomalies records de vent d'ouest sur le Pacifique équatorial et une onde de Kelvin qui pousse vers l'est une énorme quantité de chaleur sous-marine. La signature énergétique de l'épisode dépasserait la plupart, sinon tous, les super événements précédents. Pour remettre ça en perspective, un El Niño classique se produit tous les quelques années, mais un super reste rare, environ une fois par décennie au moins.
Les analyses de la NOAA montrent des températures de l'océan qui dépassent 5 degrés au-dessus de la normale sur une large zone de l'est du Pacifique, avec des pointes au-delà de 6 degrés, et un réchauffement sur 30 jours de plus d'un degré et demi sur une très vaste surface. Autrement dit, une croissance accélérée pour ce stade de l'événement.
Et concrètement, pour l'automne et l'hiver prochain, aux États-Unis, au Canada et en Europe, ce passage d'un El Niño modéré à extrême approfondit le creux pacifique et renforce la crête canadienne. Résultat, des conditions plus douces au nord et une trajectoire de tempête plus active dans le sud des États-Unis. Le changement de l'événement ne confirme pas encore exactement à quoi ressemblera l'hiver, mais il redessine déjà les grands arbitrages saisonniers.
Autre histoire, autre époque, le fameux signal Waouh, l'un des grands mystères non résolus de l'astronomie. Il s'agit d'un signal radio en bande étroite, particulièrement puissant, détecté le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, alors utilisé pour le programme d'écoute SETI. Le signal semblait venir de la direction de la constellation du Sagittaire.
La découverte revient à Jerry Eman, astronome bénévole du projet. Quelques jours après la détection, il analysait à la main des données traitées par un ordinateur et imprimées sur papier. Il a entouré la séquence d'intensité 6UOQJ5 et écrit « Waouh » en marge. Le signal a duré les 72 secondes complètes pendant lesquelles Big Ear pouvait l'observer.
Depuis, de nombreuses recherches de récurrence ont été lancées et plusieurs hypothèses avancées, réflexion de débris spatiaux, scintillation interstellaire, nuages d'hydrogène cométaire, mais le signal ne s'est jamais reproduit et aucune explication, terrestre ou non, n'a été confirmée.
Une petite précision qui en dit long, la fréquence de 1420 MHz évoquait l'arrêt de l'hydrogène, conformément à une spéculation de 1959 des physiciens Philip Morrison et Giuseppe Cocconi. Et il y a un détail souvent mal compris, la séquence 6EPCHO-GIGE5 n'est pas un message codé. C'est simplement la représentation imprimée du rapport signal sur bruit, échantillonnée toutes les 10 secondes, puis traitée par l'ordinateur, chaque canal étant noté par un caractère alphanumérique. Le mystère reste entier, et c'est précisément ce qui fascine.
Passons à une figure qui a discrètement façonné notre façon de consommer la technologie. Bedelio, pionnier du traitement numérique du signal et membre à vie de l'IPL, est décédé le 7 mai à l'âge de 91 ans. C'est lui qui a contribué à fonder le domaine du traitement numérique moderne du signal, ses algorithmes mathématiques qui analysent, modifient et transmettent le son, les images et la vidéo.
Liu a enseigné le génie électrique à Princeton pendant plus de 50 ans et il a dirigé le département de génie électrique et informatique de 1994 à 1997. Ses recherches ont permis la transition de l'analogique vers le numérique pour le son, l'image et la vidéo. Les processeurs de signal à faible consommation, qui rendent possibles les appels cellulaires, la vidéo en streaming et les communications Internet, sont attribués à ses travaux des années 70 et 80.
En 2018, il recevait la médaille IEEE Jack S. Kilby pour le traitement du signal, récompensant ses contributions soutenues à l'analyse et au développement de réalisations de faible complexité d'algorithmes de traitement numérique du signal. H. Vincent Pour, professeur à Princeton, résume bien l'héritage dans son hommage. Nous diffusons de la musique et des vidéos en streaming, nous prenons des photos et les envoyons sans même y penser. Mais tout cela repose sur le traitement du signal, de l'image et de la vidéo développée au fil des décennies, aux côtés d'autres technologies comme les semi-conducteurs. Tout ce qui semble magique dans notre quotidien numérique s'appuie sur des décennies de travail de chercheurs comme Liu. On enchaîne avec un sujet qui divise profondément la communauté scientifique, une chirurgie controversée contre Alzheimer. L'article de Nature raconte l'histoire d'une procédure appelée anastomose lymphatico-veineuse cervicale profonde. L'idée, relier de minuscules vaisseaux lymphatiques du cou qui participent au drainage des déchets du cerveau à des veines voisines pour que le liquide et les protéines de déchets s'écoulent plus facilement dans le sang.
Le premier patient au monde, un homme octogénaire, a été opéré en septembre 2020. Les vidéos montrent une évolution spectaculaire. Alerte 3 jours après, capable d'identifier son fils, à 6 mois, assis et conversant. À 8 mois, marchant et récitant de mémoire un chant militaire vieux de près d'un siècle. La technique a été rapportée en 2022 par le microchirurgien Qingping Xi, de l'hôpital Kyushi à Hangzhou.
Des centaines d'hôpitaux en Chine ont ensuite proposé la procédure. Des milliers de personnes l'ont recherchée, beaucoup payant plus de 200 000 yuan, environ 30 000 dollars, poussés par des vidéos virales et un marketing agressif sur les réseaux sociaux. Devant cet engouement, les régulateurs chinois ont restreint la procédure à des cadres de recherche clinique plus formalisés, et Xi est en détention depuis septembre pour des raisons non divulguées.
La communauté scientifique reste divisée, notamment sur les risques d'infection et la validité des résultats. Si la promesse paraît énorme, ce dossier montre bien comment une procédure encore incertaine peut dépasser très vite le cadre strict de la recherche clinique, et combien il est difficile, dans ces conditions, de séparer l'effet de l'emballement.
Pour finir, retour à Hacker News, où le fil s'ouvre sur un titre liant le sémaglutide à un risque de démence prédit plus faible. Disons-le d'emblée, le contenu de l'étude n'était pas directement accessible dans les sources, puisque la page de l'article affichait simplement un écran de vérification. En revanche, la discussion qui a suivi est passionnante.
Un commentateur rappelle d'abord que le diabète est un facteur de risque bien connu de démence, ce qui donne du sens à l'hypothèse. D'autres parlent de maladies liées au régime riche en sucre dont le sémaglutide serait un contrepoids, avec l'idée qu'un jour, peut-être, la thérapie génique pourrait jouer un rôle vaccinal. Le même intervenant ajoute que le fructose favoriserait les métastases et la dissémination du cancer.
Mais plusieurs voix contestent cette lecture. Un répondant estime qu'on parle simplement de sédentarité, affirmant qu'il n'existe pas de diabète acquis chez les personnes physiquement actives. Un autre juge l'étude intéressante, mais note que les dosages sont trop élevés et que les souris restent rarement un modèle fiable. Surtout, cette même étude montrerait que le glucose inhibe le comportement, ce qui suggérerait un problème de rapport entre fructose et glucose. Le sucre de table, qui en fournit des parts égales, serait quant à lui acquitté par l'étude.
Un autre intervenant rappelle que les régimes riches en sucre existent partout où les gens peuvent se les offrir, sans distinction entre Occident et Orient. Et un autre encore insiste sur la sédentarité comme facteur probablement tout aussi important. Ce qui ressort de ce fil, c'est un fait certain et une cause incertaine. Le diabète est lié à la démence, mais expliquer cet effet par le seul sucre, c'est probablement lire l'étude trop vite.
On reste sur le cœur et le métabolisme, avec une étude publiée dans le JACC et annoncée par l'American College of Cardiology. L'idée de départ est simple. Le BMI, l'indice de masse corporelle, ne dit rien de la répartition de la graisse. Or, toute la graisse ne se vaut pas. La graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes, est liée aux maladies cardiaques et au diabète, contrairement à la graisse sous-cutanée.
Et c'est exactement là que le tour de taille et le rapport taille-hanche entrent en jeu. La étude portée par la Cross Cohort Collaboration a suivi plus de 260 000 personnes pendant 20 ans en moyenne, sur 9 critères, de l'infarctus à l'insuffisance cardiaque, en passant par les AVC. La question ? Est-ce que l'ajout de ces deux mesures au BMI permet de mieux prédire le risque ?
La réponse est clairement oui, et les chiffres sont parlants. Chez les personnes de poids normal, selon le BMI, 5% avaient pourtant un tour de taille élevé, et 18% un rapport taille-hanche élevé. Autrement dit, on peut avoir un BMI rassurant et une graisse abdominale à risque.
Michael Blaha, du Johns Hopkins Sicaron Center, résume. Ces deux mesures reclassent le risque défini par les seuils traditionnels du BMI. Concrètement, un poids normal, avec une adiposité centrale élevée, était associé à un risque plus élevé pour la plupart des critères, et un tour de taille ou un rapport taille-hanche élevé correspondait à un risque supérieur de 15 à 50%.
Et l'inverse est tout aussi intéressant. L'obésité avec un tour de taille faible n'était pas associée à un risque significativement différent. Donc le message pratique, c'est que le BMI seul peut à la fois inquiéter à tort et rassurer à tort selon où se trouve la graisse.
On change complètement de sujet, direction les tiques et la maladie de Lyme. Un nouvel appareil appelé Lyme Alert, présenté comme le premier test à domicile pour détecter les tiques infectées, doit arriver sur le marché en août. L'idée vient d'Erin Dawicki, assistante médecin pédiatrique à Boston, née pendant un cours d'entrepreneuriat en santé lors de son MBA, après avoir vu trop de parents appeler à propos d'une tique trouvée sur un enfant.
Et c'est un vrai problème de santé publique. Plus de 30 et 1 million d'Américains, presque 1 sur 10, subissent une morsure de tique chaque année. Environ 476 000 patients sont traités pour Lyme chaque année, concentrés dans le Nord-Est et le Haut-Midwest. Le souci, c'est qu'en attendant les résultats, elle prescrit en aveugle des antibiotiques, ce qui alimente la résistance antimicrobienne aux États-Unis.
L'objectif de Lyme Alert, c'est de tester la tique elle-même à domicile pour savoir immédiatement si elle est infectée et éviter cette prescription à l'aveugle. Il faut rappeler que les tiques transmettent des dizaines de maladies, de l'anaplasmose à la fièvre pourprée des rocheuses, en passant par le syndrome alpha-gal. 4 espèces, sur les 90 présentes aux États-Unis continentaux, causent l'essentiel des infections.
Le timing n'est pas anodin. Ce printemps, le CDC avait d'ailleurs signalé un pic de cas. Donc la promesse, c'est de transformer un moment d'angoisse, une tique sur un enfant, en une réponse rapide et documentée, plutôt qu'en un pari antibiotique. Ensuite, un regard différent sur la gestion de la glycémie, avec une application Android gratuite appelée SugarTrack. Le principe posé par son créateur, un carnet de glycémie totalement hors ligne, sans compte, sans internet, sans cloud. Les relevés restent dans une base de données sur le téléphone, avec contexte, notes, photos optionnelles, historique, courbe de tendance, et même export en PDF pour le médecin.
L'auteur dit l'avoir construite pour ne plus remplir de formulaire papier en suivant la glycémie d'un proche. Et il précise bien que les valeurs viennent du lecteur de l'utilisateur, que l'application n'est ni un lecteur ni un avis médical. Mais dans la discussion, la proposition est loin de convaincre tout le monde.
Le contre-argument principal vient de Coding Dave. Son lecteur de glycémie garde déjà l'historique et peut le télécharger directement sur son appareil. Alors pourquoi intercaler une application ? À quoi une autre réserve répond, pour ceux dont le lecteur ne peut pas exporter les relevés.
Et là, Sublinière pointe un vrai angle mort. Beaucoup de lecteurs simples sont gratuits avec les kits, ont une mémoire interne, mais il n'existe pas de standard pour les données envoyées par Bluetooth à l'application. Résultat, cette appli se retrouve dans une zone grise, entre des lecteurs qui gardent l'historique et ceux qui aimeraient le récupérer, sans pont standard pour le faire. Prenons du recul maintenant, avec un billet intitulé « I remain a skeptic » écrit par le Proven sur son blog. Le fil Hacker News est dense, mais une idée ressort fortement de la discussion. Le but peu caché de la grande poussée des modèles de langage dans la tech est d'homogénéiser le travail intellectuel pour le rendre fongible.
Et c'est un point redoutablement précis. Quand un travail devient fongible, on peut le remplacer quand on veut par une alternative, ce qui diminue le pouvoir de négociation des travailleurs. Surtout si, en plus, on remplace des personnes par des machines qui n'ont pas besoin de jours de congé.
C'est ça, le cœur du scepticisme. Au-delà des promesses de productivité, le cadre est celui d'un rapport de force. L'intelligence artificielle ne se contente pas d'aider, elle redéfinit la valeur du travail humain en le rendant interchangeable. Et c'est une inquiétude qui dépasse largement la technique pour toucher l'économie tout entière.
Pour finir, un billet très stimulant d'Alain Bargy, publié sur son carnet personnel, qui avance que travailler avec l'IA ressemble plus à du leadership qu'à du code. Son constat, le code donnait une certitude, même entrée, même résultat, sinon c'était un bug. L'IA, elle, peut répondre différemment à la même requête, faire une connexion utile, manquer un point évident, ou surprendre par une approche inattendue.
Traiter l'IA comme un compilateur, ça frustre. La traiter comme une collaboration, elle devient plus utile. Et comme elle n'a ni expérience vécue, ni responsabilité, ni jugement humain, l'investissement se situe dans l'expression de l'intention. Sa formule est excellente. La technologie est nouvelle, mais les compétences de leadership ne le sont pas.
Dans la discussion, le PDG de quelque chose comme il le dit lui-même a validé la comparaison en lien avec son expérience de direction d'organisation. Ceux qui obtiennent de très bons résultats avec les LLM et les agents ont souvent un vrai vécu de management derrière eux. D'ailleurs, il pointe qu'Anthropic l'aurait bien compris en recrutant de nombreux CTO et CEO à des postes de contributeurs individuels.
Mais le point le plus discuté restait la comparaison avec le management humain. Gérer des agents serait massivement plus facile que gérer des humains. Pas de désir, pas d'objectif personnel, pas d'opinion, pas d'état émotionnel à considérer. Les humains ont une agence, pas les agents, malgré le nom. C'est fou de voir à quel point les compétences qui deviennent précieuses avec l'IA sont celles qu'on a toujours associées au leadership. Le contexte, la clarté de l'intention et le retour.
On ouvre avec un gros débat Hacker News sur l'état réel de l'IA dans la découverte de médicaments en partant d'un article qui renvoie à des analyses de science et de nature. Deux lectures s'affrontent sur le sujet. L'une reprend la recommandation du papier. Les chercheurs et les entreprises devraient réfléchir d'abord au pourquoi de leurs techniques plutôt que de les adopter simplement parce qu'elles sont nouvelles et jugent l'impact de cette IA et donc le coût de la suivre. Assez drastique et coûteux, avec un plaidoyer pour une approche modérée tant que la capacité n'est pas démontrée.
et l'autre camp conteste frontalement. Pour lui, les scientifiques de la découverte de médicaments réfléchissent déjà constamment au pourquoi et au comment. L'IA n'est qu'un outil de plus dans la boîte à outils. Surtout, il soulève un point de calendrier clé. Les délais de développement d'un médicament dépassent généralement la période pendant laquelle ces technologies restent disponibles ou au moins efficaces. Donc mesurer leur impact réel, bon ou mauvais, prendra forcément du temps.
En parallèle, un fil dérive sur un vrai besoin, un traitement contre la perte de cheveux, demandé le plus vite possible. Un commentateur rappelle que la finastéride existe déjà, avec ce qu'il appelle le seul problème, elle vous castre chimiquement. Une nuance arrive vite, pas chez tout le monde, mais assez pour justifier une surveillance et une titration vigilante.
Un autre avance le chiffre d'environ 2% des utilisateurs qui ressentent ces effets réversibles à l'arrêt. Et une recommandation émerge, la finastéride topique, qui produit des concentrations plus élevées au cuir chevelu et plus faibles dans le corps, pas parfait, mais mieux. Une autre formulation est aussi évoquée au passage, sans trancher.
Passons à un véritable exercice d'auto-recherche. Sur son blog, Sankalp raconte sa participation au concours organisé par GPU Mode avec Core Automation, dans le cadre d'une série d'épreuves sur les noyaux d'algèbre linéaire à l'ère de la recherche. Le défi, implémenter une factorisation QR maison, la décomposition QR compacte de Householder appliquée à des lots de matrices.
Concrètement, il fallait traiter des lots de matrices carrées en CUDA, en virgule flottante simple, et renvoyer exactement la même représentation compacte que la fonction de référence de torche. Le résultat devait passer des vérifications précises. La matrice reconstruite devait bien factoriser A en Q et R avec Q orthonormal tout en restant conforme au format attendu.
Le classement se faisait sur la moyenne géométrique des temps d'exécution, selon les formes et les cas de conditionnement, avec des tailles qui montent progressivement jusqu'à de très grandes matrices. Les formats réduits étaient autorisés en interne, mais les facteurs rendus devaient satisfaire des vérifications en précision pleine.
Et le résultat est remarquable pour un premier essai sérieux. L'auteur termine 12e sur 183 participants, avec un speed-up de 232 fois par rapport à la solution de référence. La plateforme fournissait une interface en ligne de commande conçue pour les agents qui permettait de tester, benchmarker et soumettre directement au classement avec un retour par forme. Les soumissions étaient en pratique illimitées, si espacées.
Stephen Craswell annonce sur Hacker News la sortie de Yada 3.0.0, une bibliothèque BDD pour JavaScript publiée sur NPM. Le principe rappelle Cucumber, relier des spécifications écrites en langage ordinaire à du code exécutable, mais avec une approche beaucoup moins prescriptive sur la façon d'écrire ces spécifications.
Mais la discussion s'est rapidement focalisée sur le sigle lui-même. Un commentateur parie que presque personne ne sait ce que signifie BDD et suggère de l'expliquer sur la page d'accueil. D'autres s'en étonnent, estimant que tout ingénieur logiciel devrait le savoir. L'un souligne même que le sigle tombe dans leur question d'entretien.
Certains avouent penser à tout autre chose. Une commentatrice dit que, en tant que femme, sa première pensée a été « body dysmorphic disorder ». Un autre s'attendait à des « binary decision diagram » et critique l'usage excessif des sigles. Un échange boucle la boucle en inventant le sévère acronyme « overload disorder » jusqu'au groupe « system of a down ».
Plutôt qu'une polémique d'âge, le sujet était populaire il y a environ 15 ans, même si BDD n'a pas vraiment résisté au temps selon l'un d'eux, le vrai fond ressort en filigrane, l'idée de transcrire la discussion initiale d'un projet en BDD pour guider l'IA est jugée soit brillante et prometteuse, soit à écarter sur le seul exemple donné.
Voici une bonne histoire de chasse aux bugs. Michael Stapelberg raconte comment il a traqué une perte de données dans l'historique de Zesh, ce shell Unix très répandu. Pendant des années, des commandes qu'il était certain d'avoir exécutées disparaissaient. Sa recherche historique ne trouvait plus rien, et son fichier d'historique ne contenait plus que de très vieilles entrées, avec des années manquantes, sans aucune corruption visible.
Le piège, c'est qu'il ignorait si le coupable était Zash, un autre programme, ou la combinaison de plusieurs processus ZZH. La stratégie gagnante a été radicale, patcher Zesh pour le faire crasher bruyamment, puis analyser la mémoire après le crash. L'observation montre que ZZH lit l'ancien fichier, écrit dans un fichier temporaire, puis le renomme par-dessus l'ancien, supprimant ainsi l'original.
La solution est sortie officiellement. La version 5.9.2 de Zesh, publiée en juillet, contient le correctif. Une annexe signale même un piège bonus, l'export accidentel d'une variable d'environnement, qui peut perturber tout le système. Et dans les commentaires, plusieurs utilisateurs se reconnaissent. L'un dit avoir perdu son historique sans jamais creuser. Un autre, avec près d'une décennie d'historique, pense avoir été touché sans le remarquer. Et la mention de la variable exportée lui a fait réaliser une erreur commise depuis toujours, content et triste à la fois.
Le fil se termine sur une note plus légère. Quelqu'un estime qu'environ 98% de son historique est embarrassant et demande si les gens le relisent vraiment. La réponse, semble-t-il, est oui, tout le temps.
Dernier sujet, et il est plutôt fun, un projet nommé Takran, le Test Android Wayland Competitor. L'idée est d'exécuter des programmes Linux en ligne de commande et graphiques directement sur Android sans root. Et les applications graphiques profitent de l'accélération matérielle via la pile graphique native du téléphone.
Comment ça marche? Une distribution Linux complète, comme Arch Linux, ARM ou Debian, est téléchargée et extraite. Les programmes tournent dans cet environnement via un outil qui émule Shroot et d'autres appels système pour contourner les limites d'Android sans root, comparable à une alternative existante, mais plus rapide, car il utilise un seul processus. Un compositeur Wayland et une interface utilisateur s'occupent de l'affichage.
Le projet est particulièrement intéressant pour ses origines. Il est décrit comme « agent built, construit principalement avec un agent de codage et les derniers modèles de son éditeur. X-Wayland est inclus pour faire tourner du X11 accéléré. » Mais le projet l'admet honnêtement, pas de vrai sandboxing au-delà des mécanismes d'Android, l'outil d'émulation peut être contourné et pas de support GL desktop.
Dans la discussion, quelqu'un le trouve cool, surtout sur un téléphone pliable où l'on peut faire tourner des applications intéressantes et coupler à des couches de compatibilité Windows, encore plus de possibilités. La question des pilotes graphiques revient. Pourquoi une étape supplémentaire de compatibilité puisque le projet tourne sur un vrai Android avec des pilotes déjà fonctionnels? La réponse, les pilotes graphiques Android sont compilés avec une bibliothèque spécifique au système, alors que la plupart des distributions Linux utilisent une autre. Voilà le chaînon manquant que le projet doit raccorder. C'est une belle illustration de ce que des agents peuvent aujourd'hui assembler seuls.
Commençons par cette histoire de fantômes, mais pas ceux qu'on imagine. Un message sur Hacker News renvoie à un article de Paul O'Leary McCann qui s'intéresse aux ghost characters, les caractères fantômes du japonais. En 1978, le ministère japonais de l'économie et du commerce a établi le standard d'encodage devenu JISX0208, toujours une référence pour les encodages japonais aujourd'hui. Or, plusieurs caractères ajoutés à l'époque n'avaient aucune source identifiable, ni sens ni prononciation connue.
Et donc, que s'est-il passé? Une enquête en 1997 a retrouvé l'origine de la plupart de ces fantômes. C'était des erreurs de catalogage. La source la plus fréquente était une liste de noms de lieux, dont la dernière édition comptait 7 volumes d'environ 900 pages chacun, et sans aucune référence de page pour s'y retrouver.
Un des exemples éclairants, c'est le caractère fan. Il est né d'une tentative de noter un nom de lieu, Yam sur Nu, c'est-à-dire la montagne en haut, la femme en dessous, mais imprimée en deux morceaux collés l'un à l'autre. La ligne de jonction entre les deux a été lue comme un trait du caractère, et ce trait fantôme est resté. Le caractère original n'a été ajouté à JIS et à Unicode que bien plus tard.
Étonnant, et parmi les fantômes les plus centraux, il n'y en a qu'un, ESI, qui n'a ni source claire ni précédent historique. Plus probablement une mauvaise lecture d'un autre caractère, sans incident précis retrouvé. Le reste a pu être expliqué, mais celui-là est resté sans histoire.
Et c'est là que ça devient vertigineux. Via l'adoption des normes JIS, ces caractères fantômes sont entrés dans Unicode, qui a d'ailleurs ses propres fantômes, issus de la fusion des caractères CJK entre langues. L'auteur conclut que ces erreurs sont désormais potentiellement sur chaque ordinateur, et il l'écrit comme ça, « Presumably with humanity forever ».
Et dans la discussion, on apprend que McCann n'est pas un inconnu du milieu. C'est un programmeur apprécié en traitement automatique du japonais. Il maintient Fugashi, un Roper Python du tokeniseur Mecab. Il a écrit un livre sur le NLP japonais pour les anglophones, et il a travaillé sur le projet Spacy. Passons à une question très différente. D'où naissent les bonnes idées? Un article d'Henrik et Johanna Carlson, daté de 2023, oppose la solitude fertile aux espaces de coworking pour start-up. Le texte cite Sam Altman, alors président de Y Combinator, qui affirmait en 2015 que ne pas fournir d'espace de coworking faisait partie de ce qui fait fonctionner YC. En 2019, Altman précisait la chose. Les grandes idées sont fragiles et faciles à tuer. En coworking, dit-il, les gens rient de l'idée, larvèrent. Et du coup, on change d'idée pour quelque chose de plausible, mais sans importance.
L'idée est élégante, mais la discussion ne s'y laisse pas aller. Un commentateur, Andy99, conteste « Son meilleur travail, il l'a fait en thèse, grâce à l'environnement de laboratoire. » Et voit des contre-exemples historiques en milieu académique. Pour lui, ce sont la pression, la compétition ou la commercialisation prématurée qui tuent les idées, pas le fait de travailler ensemble.
Un autre commentaire évoque les époques fécondes. Athènes en 470 avant J.C., la Renaissance, Vienne en 1900, Bristol dans les années 1990. Et quelqu'un nuance le cas de Grothendieck, justement cité dans l'article comme figure de la pratique solitaire. En réalité, il combinait la pratique solitaire avec des échanges réguliers avec ses pairs. Le reproche se retourne alors. Trop d'environnement professionnel, conforme aux normes établies, et trop peu de place pour réinventer ce qui existe déjà.
Le débat s'élargit ensuite. Un commentaire critique l'injonction à extraire quelque chose de soi. Un autre appelle le philosophe Pico della Mirandola. pour qui le simple être équivalait à une existence végétale. On cite aussi les stoïciens et un proverbe chinois. Et une réponse tranche, si l'on ne s'impose pas, la société s'en chargera. Changeons de décor complètement. Aux Pays-Bas, une communauté vit dans un lac sur des îles d'une minceur impossible. L'article de Cor 77, signé Renno, raconte l'Oosdrecht. C'est le résultat d'une géographie artificielle créée par l'extraction de la tourbe.
Pendant des siècles, des bateaux ont dragué d'anciens marais pour extraire la tourbe comme combustible. De fines bandes de terre étaient laissées pour décharger la tourbe et la faire sécher au soleil. Et c'est resté une simple curiosité géographique jusqu'au XXe siècle, quand des promoteurs y ont construit des maisons. Aujourd'hui, des centaines de résidents vivent dans ces habitations, accessibles uniquement par bateau.
Et pour bien comprendre l'histoire, il faut saisir ce qu'est la tourbe. Dans la discussion, quelqu'un l'a définie, un matériau mou et spongieux, fait de plantes mortes incomplètement décomposées, qui se forment très lentement dans les marais, et qui sert de combustible comme d'engrais.
Et là intervient une donnée physique cruciale. La tourbe retient souvent plusieurs fois son poids en eau. Construire sans tenir compte du sol peut la comprimer à une fraction de son volume, avec de très grands tassements. C'est dire à quel point bâtir sur ces îles est un pari technique.
Et puis il y a le paradoxe écologique. La tourbe est un puits de carbone fantastique. Selon le New York Times, les tourbières ne représentent que 3% des terres émergées, mais stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies. Historiquement déterrées comme combustible, ces restes sont devenus de coûteuses maisons de vacances.
On rappelle aussi que des peuples pré-industriels l'ont utilisé intensivement, et que certains le font encore, et qu'avec de la chaleur, de la pression et du temps géologique, cette tourbe devient du charbon. Dernière histoire, et elle a de quoi donner froid dans le dos. Un article de Sean Byrne, intitulé « The Other Sean Byrne Doesn't Exist », raconte comment un homonyme fictif a été inscrit sur une liste américaine de parties restreintes, et comment Apple, Nasdaq et d'autres l'ont confondu avec lui pendant 16 ans.
Concrètement, le dossier de la Bureau of Industry and Security sur sa liste d'entités restreintes a été ajouté le 21 juillet 2009. Il mentionne Sean Byrne à une adresse irlandaise avec une présomption de refus pour tous les articles soumis aux règles d'exportation américaines.
D'où vient cette entrée? De la poursuite contre Mac Aviation, une entreprise irlandaise de pièces d'avion, et contre les Magwin, Thomas et Sean, pour exportation illégale d'équipements aéronautiques vers l'Iran. Selon le Sunday Times, les Magwin auraient inventé des employés, dont ce Sean Byrne, pour paraître plus important.
Et c'est là que ça devient absurde. L'acte d'accusation suppléant de 2010 ne nomme plus Sean Byrne comme défendeur. Il le décrit comme un alias utilisé par les co-conspirateurs, plus de 15 fois. Pourtant, l'entrée sur la liste a survécu, sans date de naissance ni autre identifiant.
Cette année, Apple a refusé à Byrne l'accès à son espace développeur, disant que son nom correspondait pleinement à celui d'une partie restreinte et n'a pas répondu à sa demande de vérification. Plus tôt, Nasdaq avait bloqué une vente d'actions pour une simple correspondance de nom avant de la débloquer après vérification.
Et dans les commentaires, un autre récit du même genre, des comptes bloqués par une réponse automatique. Malgré une correspondance floue avec une personne d'une cinquantaine d'années, une mésaventure qui lui a coûté plus de 20 000 dollars.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a beaucoup voyagé, d'un El Niño record qui menace l'hiver, au fameux signal WOW, en passant par l'intelligence artificielle, qui ressemble davantage à du leadership qu'à du codage, et même un compositing de bureau Android qui tourne sans fenêtre.
Sans oublier le sémaglutide et la démence, la maladie de Lyme, et cette impressionnante chasse aux bugs racontée par Michael Stapelberg. Un vrai tour d'horizon entre science et technologie.
Merci de nous avoir suivis. Si le sujet d'aujourd'hui vous a marqué, partagez-le autour de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection. À la prochaine.